VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 3 août 2022. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous, à la une de nos informations. À RDC, le gouvernement demande le départ de Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO. Au Burkina Faso, l'armée reconnaît la mort de civils lors d'un raid aérien contre les djihadistes. En Guinée, 29 mineurs sont en détention provisoire après des manifestations interdites à Conakry. L'île de Taïwan dit qu'elle ne va pas reculer face aux menaces de la Chine suite à la visite de Nancy Pelosi. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Kinshasa demande le départ du porte-parole de la MONUSCO dans un bref délai, une annonce qui intervient au moment où des manifestants s'en sont pris ces derniers jours à la mission onusienne, lui reprochant son inefficacité face à l'insécurité dans l'est du pays. Le point avec Abdourahman Dia.
Le gouvernement appréciera beaucoup que des dispositions soient prises pour que Mathias Gilman quitte le territoire congolais dans le plus bref délai, a écrit le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula à la chef de la MONUSCO. Pour le chef de la diplomatie congolaise, la présence de ce fonctionnaire onusien ne favorise pas un climat de confiance mutuelle et de sérénité entre les institutions congolaises et la MONUSCO. Une source gouvernementale qui n'a pas souhaité être identifiée a indiqué que les propos tenus par M. Gilman sur une chaîne française affirmant que la MONUSCO ne disposait pas de moyens militaires pour faire face au M23 sont à la base de la tension actuelle. Depuis le 25 juillet, des manifestants en colère ont saccagé et pillé des installations de la mission de l'ONU présente en RDC depuis plus de 22 ans. Au moins 32 manifestants et 4 casques bleus ont été tués lors de ces manifestations, selon un bilan officiel des autorités congolaises.
L'armée burkinabé a reconnu ce mercredi la mort de civils lors de frappes aériennes contre des groupes terroristes dans l'est du Burkina Faso, sans préciser leur nombre. Des habitants de la région parlent d'une trentaine de tués. Jacques Aristide.
L'état-major de l'armée burkinabé indique que ces opérations, effectuées lundi dans plusieurs localités, ont permis de neutraliser des dizaines de membres des groupes terroristes responsables de plusieurs exactions. Il ajoute que les frappes ont malencontreusement fait des victimes collatérales au sein des populations civiles. Les victimes, dont le nombre n'a pas été précisé par l'état-major, se trouvaient à proximité d'un repère terroriste sur l'axe Kompienga-Ponioa lorsqu'elles ont malheureusement été mortellement atteintes par des projectiles, souligne un communiqué. Des habitants de la région affirment qu'une trentaine de civils, majoritairement des femmes, ont été tués. Elles étaient réunies pour l'inauguration d'un moulin lorsque le drame s'est produit, a expliqué à l'AFP un habitant. L'état-major indique qu'une enquête est ouverte en vue de situer les responsabilités et présente ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes.
En Guinée, 29 mineurs poursuivis pour des faits d'attroupement et de destruction de biens sont placés en détention provisoire. Ils font partie des personnes arrêtées dans le cadre de manifestations interdites du 28 juillet. Le point avec Mohamed Oumfa.
Il s'agit exactement de 34 mineurs, dont 5 de moins de 13 ans, selon un communiqué du procureur spécial du tribunal pour enfants de Conakry, Mohamed Diawara, lu mardi soir à la télévision nationale. Le parquet n'a pas engagé de poursuite pénale contre les mineurs de moins de 13 ans, conformément au code de l'enfant qui l'interdit. Le parquet spécial a décidé de poursuivre les 29 autres. Ils ont été traduits devant les juges des enfants qui ont ordonné leur détention provisoire au motif qu'ils sont poursuivis pour des faits graves et que cela est strictement nécessaire pour leur maintien à la disposition de la justice, a-t-il poursuivi. Il a demandé aux parents d'assumer leurs responsabilités pendant des périodes de manifestation. Dimanche, un groupe de diplomates a rappelé à toutes les parties l'obligation de protéger les mineurs. Mardi soir, 17 autres jeunes Guinéens majeurs ont été relaxés par le tribunal de première instance de Dixine après avoir été jugés non coupables. Des dizaines d'autres sont encore détenus.
Une enquête a été ouverte à Paris après le meurtre par balle d'un Français à la mi-juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La victime, un homme âgé de 31 ans, a été abattu dans la nuit du 17 au 18 juillet. Il descendait du véhicule lorsque deux hommes lui ont tiré dessus. lui ont volé son argent et son téléphone et ont pris la fuite, selon les médias locaux. Une demande d'entraide pénale a été transmise à la justice ivoirienne, qui a aussi ouvert une enquête. Les autorités pénitentiaires marocaines ont rejeté mercredi les propos du père de Sébastien Raoult, critiquant les conditions de détention de ce Français incarcéré au Maroc sur demande des États-Unis pour son implication présumée dans une affaire de cybercriminalité. Le jeune Français risque une condamnation à 116 ans de prison aux États-Unis pour les faits qui lui sont imputés selon son avocat. Sa famille a appelé le ministre français de la Justice à faire une demande d'extradition auprès des autorités marocaines pour qu'il puisse être jugé en France.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La présidente de Taïwan a affirmé aujourd'hui que l'île ne reculerait pas face à la menace de la Chine qui s'apprête à lancer des manœuvres militaires près des côtes taïwanaises suite à la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taipei. Elle a quitté l'île ce matin à destination de la Corée du Sud. Eric Manirakiza.
Nancy Pelosi, la plus haute responsable américaine à visiter Taïwan depuis 25 ans, a affirmé être venue en paix dans la région. Elle a assuré que les États-Unis ne vont pas abandonner l'île. Son bref séjour a déclenché l'ire de Pékin, qui considère Taïwan comme partie de son territoire et s'oppose avec véhémence à toute forme de reconnaissance de l'île. Le ministère chinois de la Défense a promis des actions militaires ciblées avec une série de manœuvres militaires. Le Japon s'est dit préoccupé par les exercices chinois. Taïwan ne va pas reculer, a réagi la présidente taïwanaise. Plusieurs navires américains croisent dans la région, dont le porte-avions USS Ronald Reagan, selon des sources militaires américaines. Le ministère du Commerce de Pékin a annoncé des sanctions économiques contre Taïwan, et l'administration chinoise des douanes a suspendu l'importation des agrumes et de certains poissons de Taïwan.
Les chefs de la diplomatie du G7 ont estimé aujourd'hui qu'il n'y avait aucune justification pour la Chine à utiliser la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan comme un prétexte à des manœuvres militaires agressives. Il est normal pour les députés de nos pays de voyager à l'international. La réponse en forme d'escalade de la Chine risque d'augmenter les tensions et de déstabiliser la région, jugent les 7 pays les plus riches dans un communiqué. Le cargo parti lundi du port d'Odessa avec plus de 26 000 tonnes de céréales ukrainiennes a été inspecté aujourd'hui avant le franchissement du Bosphore et autorisé à poursuivre sa route vers Tripoli au Liban, ont déclaré les Nations Unies. Le chargement du Razoni, qui a jeté l'ancre mardi soir à l'entrée du détroit turc, a été contrôlé pendant 3 heures et jugé conforme aux indications transmises avant son départ d'Odessa au Centre de coordination conjoint d'Istanbul. Cet organe est chargé de la mise en œuvre de l'accord russo-ukrainien du 22 juillet sur une reprise des exportations de céréales ukrainiennes. Après une longue pause, les négociateurs sur le nucléaire iranien se retrouvent à Vienne pour reprendre de difficiles pourparlers sous l'égide de l'Union européenne dans une énième tentative de sauvetage de l'accord sur le nucléaire iranien. L'émissaire américain Robert Mallet se rend également dans la capitale autrichienne. Nos attentes sont mesurées, mais les États-Unis accueillent avec bienveillance les efforts de l'Union européenne et sont prêts de bonne foi à tenter de trouver un accord, a-t-il écrit sur Twitter. Les discussions entre l'Iran et les grandes puissances ont démarré en avril 2021 avec la participation indirecte des États-Unis. Elles sont au point mort depuis le mois de mars. La mission de l'ONU en Irak a appelé aujourd'hui la classe dirigeante à trouver des solutions urgentes à la crise politique dans un contexte marqué par de graves turbulences et la poursuite de l'occupation du Parlement irakien. Un dialogue significatif entre toutes les parties irakiennes est plus urgent que jamais. Les récents événements ont démontré le risque rapide d'escalade dans un climat politique tendu, a averti la mission d'assistance de l'ONU pour l'Irak dans un communiqué. Et puis, les pays de l'OPEP ont décidé aujourd'hui de ralentir le rythme des hausses de production, résistant aux appels du président américain Joe Biden à ouvrir davantage les vannes de pétrole pour tenter d'enrayer la flambée des cours. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, amenée par Riyad et ses alliés, conduits par Moscou, ont convenu d'une augmentation dérisoire pour le mois de septembre à 100 000 barils par jour, comparé aux quelques 432 000 puis 648 000 barils supplémentaires fixés les mois précédents. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le groupe sud-africain de projets d'infrastructures pétrolières EPCM Holdings a décroché un contrat avec Sénégal Minergie Port pour la construction de pipelines reliés au port de Barny-Sindou. SMP est signataire d'un contrat de concession de 25 ans avec le gouvernement sénégalais pour la conception et la gestion du port minéralier visant à recevoir de gros navires marchands. Le groupe bancaire kényan KCB a engagé le processus de rachat d'une participation majoritaire de 85% au capital de Trust Merchant Bank basé à Lubumbashi. Il compte acquérir les 15% de parts restants de la banque congolaise auprès de ses actionnaires d'ici 2 ans. En 2019, KCB Group avait dit envisager des acquisitions de banques en RDC et au Rwanda. Au Cameroun, selon l'Observatoire national sur les changements climatiques, le risque de destruction des champs de maïs dans l'extrême nord suite aux attaques de chenilles légionnaires est élevé. L'ONAC alerte aussi sur une diminution des précipitations et affirme que des variations climatiques risquent de dégrader la production des arachides et des tubercules dans plusieurs régions.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
En Italie, Naples ne veut plus recruter d'internationaux africains à cause de la CAN.
Oui, le club italien dit ne plus vouloir embaucher de nouveaux joueurs africains, sauf s'ils s'engagent à ne pas disputer la Coupe d'Afrique des Nations, compétition généralement organisée en cours de saison. C'est ce qu'a fait savoir le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, lors de la dernière CAN en janvier et février. Le Napoli a été privé de plusieurs joueurs majeurs de son effectif, dont son défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, parti cet été à Chelsea, et son milieu camerounais Franck Zambo Anguissa. Les clubs employeurs des joueurs ont l'obligation de laisser leurs internationaux rejoindre leur sélection lors des périodes internationales régies par la FIFA.
Yacouba, cette déclaration du patron de Naples a suscité la réaction de son ancien joueur Kalidou Koulibaly.
Oui, le capitaine sénégalais, nouvelle recrue du club anglais de Chelsea, a déclaré que les nations africaines méritent plus de respect. L'international sénégalais a insisté sur le fait qu'il ne laisserait jamais personne l'empêcher de jouer au football pour son pays. Kalidou Koulibaly, qui a mené le Sénégal au sacre à la CAN en février dernier, a quitté le Napoli pour rejoindre Chelsea dans le cadre d'un transfert de 41 millions de dollars.
Rebondissement dans la Premier League, les joueurs ne mettront plus un genou à terre avant chaque match.
C'est ce qu'ont décrété les capitaines des clubs du championnat anglais. Ils précisent toutefois qu'ils ont décidé de sélectionner des moments significatifs pour mettre un genou à terre au cours de la saison afin de souligner leur unité contre toutes les formes de racisme. Ce sera désormais lors des matchs à l'ouverture ou à la fin de la saison ou encore avant des rencontres dans le cadre de la campagne « Pas de place pour le racisme ». Les joueurs de Premier League avaient pris l'habitude de mettre systématiquement un genou à terre avant les rencontres depuis que George Floyd, un homme noir, a été tué par un policier blanc aux États-Unis en 2020.
Tennis, retour gagnant pour Naomi Osaka au tournoi de San José.
Oui, l'ex numéro 1 mondial a fait son retour mardi après 2 mois d'absence en battant la jeune chinoise Zheng Qiwen au tournoi sur dur de San José en Californie, ici aux États-Unis. Naomi Osaka a sorti la chinoise de 19 ans 3-7, 6-4, 3-6, 6-1 au premier tour du tournoi. La quadruple vainqueur en grand chelem n'avait pas joué de match de compétition depuis sa défaite au premier tour de Roland-Garros en raison d'une blessure persistante au tendon d'Achille. Osaka, aujourd'hui classée 41e, jouera au deuxième tour contre l'américaine Coco Gauff, 18 ans, finaliste de Roland-Garros cette année. Cette dernière a sèchement battu l'Ukrainienne Anelina Kalinina en 2-7, 6-1, 6-0.
Page des sports VO Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, le bureau de la coordination des mouvements de l'Azawad a pointé du doigt récemment le désintérêt des autorités de la transition pour la mise en œuvre de l'accord de paix. Le gouvernement vient d'apporter une réponse en organisant la deuxième réunion qui regroupe pendant 5 jours l'ensemble des acteurs de la mise en œuvre du processus d'Alger. Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Le gouvernement malien, la médiation internationale, les membres du comité de suivi de l'accord, les groupes signataires, le gouverneur et le maire de la commune 4 du district de Bamako ont tous pris part à cette deuxième réunion niveau décisionnel, au cours de laquelle le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a rappelé le titre 1 de cet accord sur lequel repose la sortie des crises.
Les parties, dans l'esprit de la feuille de route, réitèrent leur attachement aux principes ci-après. 1. Le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'État du Mali, ainsi que la forme républicaine et laïque de son État. Le rejet de la violence comme moyen d'expression politique et le recours au dialogue et à la concertation pour le règlement des différends. La lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et les autres formes de criminalité transnationale organisée. Fin de citation.
La tenue de cette réunion, plusieurs mois après la dernière réunion du comité de suivi de l'accord, témoigne, selon le chef de l'AMINUSMA, El Ghazi Mouane, de la volonté et du gouvernement malien et des groupes signataires de surmonter les obstacles et trouver une solution endogène à la crise.
Si la complexité des questions inscrites à l'ordre du jour de la présente rencontre ne fait guère de doute, il n'en reste pas moins que celles-ci n'ont rien d'insurmontable. J'ai la forte conviction que les acteurs maliens sauront puiser au plus profond de leur génie pour trouver les compromis nécessaires. Et il existe, en Afrique et ailleurs dans le monde, de nombreuses expériences réussies dont vous pourrez vous inspirer dans la recherche de solutions adaptées au contexte malien, de solutions adaptées aux problématiques que vous devez résoudre.
Pour Fahad Mahmoud, membre de la plateforme, le processus de désarmement, démobilisation et réintégration doit être vite mis en œuvre pour faire face aux attaques multiples.
L'aspect DDR et intégration et désarmement des combattants des mouvements pour enfin servir sous le drapeau national et cheminer vers la fin des acteurs armés non étatiques. Je pense que c'est très important pour nous, vu les besoins sécuritaires que nos pays traversent actuellement. Et on a de la ressource humaine à apporter au pays, composée essentiellement de ces enfants du terroir. Et nous pensons que le Mali en sortira gagnant.
Pendant 5 jours, les acteurs espèrent trouver les voies et moyens permettant une mise en œuvre diligente et intelligente de cet accord qui n'a que trop duré. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Parlez de VOA Afrique à vos amis. VOA Afrique au Mali, c'est 102 FM Bamako, 106.1 Gao et 90.3 FM Tombouctou.
Au Togo, les jeunes se lancent dans la transformation des produits agricoles. C'est l'exemple du projet de vin à base de fruits porté par le jeune entrepreneur Kani Ben. Une idée originale pour lutter contre le pourrissement des fruits en période d'abondance. Un projet qui vise aussi à apporter une valeur ajoutée à l'économie locale. Le reportage à Lomé d'Amen Assignon.
Du vin rouge, au goût fruité pour attendrir son palais. Pour les amateurs de vin comme Abbey Food, c'est un pur délice.
C'est un vin fait à base de fruits et ça a un goût moelleux. Ce n'est pas du tout agressif en fait sur la langue. J'ai aimé. En plus, je l'ai bu avec des amis vu que c'était pour mon anniversaire. Et il y a un mec qui m'a même demandé, mais c'est possible de faire du vin au Togo? J'ai dit, bah, bien sûr que c'est possible.
En effet, c'est un vin produit au Togo à partir de fruits comme la pastèque, l'ananas, l'orange, le melon. Sa couleur rouge lui vient des fleurs d'hibiscus. Un vin naturel avec des ingrédients locaux. Une idée développée par Kani Ben depuis plus de 6 ans.
L'idée m'est venue tout d'abord par une frustration. Je devais coûte au coûte me prendre en charge, c'est-à-dire concilier l'école et en même temps un business. Donc je me suis fait former en transformation et petit à petit jusqu'en 2014, j'ai eu la main en fermentation. Maintenant, la motivation de choisir la transformation de fruits est venue de ma passion et de une autre frustration de voir les fruits pourris en période d'abondance. Donc c'est en ce moment que je me suis dit, bon, j'ai déjà appris à fermenter les fruits, pourquoi ne pas créer quelque chose? Donc nous avons commencé l'expérience entre amis à fermenter le bissap et c'est après que nous avons eu l'idée de pouvoir le spécifier avec les fruits.
Un vin naturel, sans additifs ni colorants chimiques, produit grâce à une technique bien précise, comme l'explique Kani Ben.
La méthode utilisée, c'est la pasteurisation. Nous faisons une production à chaud et on conserve le vin à chaud. Après cette conservation, on passe à l'étape de refroidissement. Après cette étape de refroidissement, le vin est conservé dans un endroit bien sec et bien aéré. Et on commence une refermentation de 2 semaines à 1 mois avant de commencer la mise en vente.
En plus d'être produit localement, c'est un vin qui aide à la digestion. Amina Ouro Agoro en a fait un produit indispensable à son alimentation.
Ça me permet de bien digérer et ça m'aide beaucoup en fait, dans mon alimentation. Donc moi, j'ai trouvé ça très très bon, naturel en plus.
L'initiative non seulement plaît, mais contribue également à l'économie locale. Mais comme le dit l'adage, à consommer avec modération. Amena Signon, Lomé, pour la VOA.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Cameroun, plusieurs sites d'exploitation de l'or sont fermés jusqu'à nouvel ordre dans la région de l'Est frontalière avec la République centrafricaine. Cette décision concerne les sociétés minières en activité dans le village de Cambélé 3 à plus de 400 km de Yaoundé. D'après l'arrêté préfectoral, des morts récurrents ont été enregistrés sur les sites des dites sociétés d'exploitation. Les réactions à cette décision n'ont pas tardé. Nous dit depuis Yaoundé notre correspondant Emmanuel Julenta.
Le Centre pour l'environnement et le développement CED, une ONG locale, a accueilli favorablement la décision de fermeture des sites d'exploitation minière dans le village Cambélé 3, en banlieue de la ville de Batoury, à plus de 400 km de Yaoundé. Dr Samuel Guifo, secrétaire général du CED.
Nous pensons que c'est la bonne décision à prendre et nous pensons qu'on aurait dû la prendre beaucoup plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais.
L'an dernier, le CED avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur les morts récurrentes des suites d'éboulements, de noyades, à cause des trous béants laissés après l'exploitation minière dans le village de Cambélé 3 et du non-respect des normes d'exploitation. Une fois encore, Samuel Guifo, secrétaire général du CED.
Nous avons accompagné un certain nombre de victimes dans une procédure contre les compagnies responsables de ces trous-là. L'audience pour les débats aura lieu le 23 août. Les populations ont désormais la possibilité de pouvoir discuter devant le juge avec les personnes qu'elles estiment être responsables de la mort de leurs proches.
Selon une source administrative de la région de l'Est, sous anonymat, le spectre de la mort plane surtout sur les sites d'exploitation de l'or appartenant aux sociétés chinoises. Marcel Ngandji, président du comité de développement du village Cambélé 3.
Quand la terre se casse, on n'a pas les engins pour enlever, pour voir où il y a les gens. Mais des fois, il y a nos frères militaires qui prennent les engins, on enlève. Mais ils n'enlèvent pas partout. Et quand on veut que l'engin travaille ici, là, le Chinois, quand il arrive dans son engin, il n'est pas garé chez lui.
La fermeture jusqu'à nouvel ordre des sociétés minières dans le village Cambélé 3 ne dissipe pas le malaise de la communauté. Une cultivatrice du village Cambélé 3 demande plus.
Comme ils ont déjà renversé nos terres là, qui vient donc ils ferment les trous là, parce qu'ils ont créé beaucoup de morts. Et quand l'eau inonde déjà là, ce n'est pas facile de traverser pour aller de l'autre côté faire le champ. Les enfants vont tomber, les grandes personnes, c'est la mort.
Selon le cahier de charge de l'exploitation minière au Cameroun, les sociétés sont tenues de restaurer les terres au terme de leur exploitation sous la supervision des experts du ministère de l'Environnement. Oberlem Bélessa, maire de la commune de Batouri.
Il faut que les gens prennent conscience et qu'il y ait une bonne synergie entre toutes les administrations. Il faut qu'on se mette ensemble pour voir comment restaurer ces sites-là. Voilà un environnement qui est totalement détruit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer? C'est quand les Chinois vont partir, s'ils abandonnent ça va être la catastrophe encore, ça va être encore plus grave.
Les autorités administratives imputent également aux sociétés minières du village Cambélé 3 la responsabilité de la dégradation avancée d'une partie de la route due à l'obstruction de l'île de cours d'eau par des coulées boueuses. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La représentante de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a quitté Taïwan aujourd'hui au terme d'une visite historique et controversée à laquelle Pékin a répondu par des menaces et des annonces d'exercices militaires. Le point avec Jacques Aristide, avec des éléments réalisés par Bill Gallo de la VOA Séoul en Corée du Sud.
L'élu de 82 ans a salué les dignitaires sur le tarmac de l'aéroport de Songshan à Taipei avant de monter à bord d'un avion militaire américain qui a décollé à 18h, heure locale, un départ retransmis en direct par les télévisions. Le voyage de Nancy Pelosi a déclenché la colère des autorités chinoises. Pékin a déployé ce mercredi une série de sanctions commerciales contre Taïwan, de même que des manœuvres militaires près de l'île, en réaction au séjour de la présidente de la Chambre des représentants américaine. Yua Chunying, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Les exercices militaires menés par l'armée chinoise dans la mer près de Taïwan constituent une mesure nécessaire et légitime pour protéger résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale en réponse aux provocations majeures de certains politiciens américains et des indépendantistes taïwanais.
Des analystes s'attendent à ce que ces exercices s'intensifient dans les prochains jours, faisant craindre une erreur de calcul. Amanda Siao de Crisis Group.
En ce moment, la chose la plus importante est que les deux parties signalent leur intention très soigneusement et très clairement, et c'est essentiel pour empêcher que cette situation ne dégénère en une crise plus large.
Nancy Pelosi est la plus importante élue américaine à se rendre à Taipei en 25 ans. En 1997, Newt Gingrich, alors président de la Chambre des représentants américaine, avait visité Taïwan et Pékin. Il a récemment déclaré à la VOA qu'il était d'avis que le voyage de Mme Pelosi serait une irritation dans les relations américano-chinoises.
Je pense que c'est à un certain niveau beaucoup de bruit pour rien. Je pense, si elle tient bon, si l'administration Biden n'agit pas timidement et presque lâchement, je pense que tout ira bien. Ce sera un bel événement.
Les Taïwanais, habitués aux menaces chinoises, ont des sentiments mitigés. Beaucoup se disent soulagés par le soutien américain. William Yang est le président du club des correspondants étrangers de Taïwan.
Mais d'un autre côté, il y a un groupe de Taïwanais qui sont très méfiants quant à l'intention, du but et de l'effet de la visite. Beaucoup d'entre eux se demandent si cela va réellement accentuer la colère de la Chine, poussant la Chine à prendre des mesures plus imprudentes et déraisonnables contre Taïwan.
La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a affirmé ce mercredi que l'île ne reculerait pas face à la menace de la Chine en faisant allusion aux manœuvres militaires de Pékin près des côtes taïwanaises. Lors d'une rencontre avec Mme Tsai à Taipei, Mme Pelosi a déclaré être venue en paix dans la région tout en assurant que les États-Unis n'abandonneraient pas l'île.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.